Jean chapitre 4, versets 23 à 24, où nous lisons le suivant, où Jésus disait, verset 23, mais l'heure vient et elle est déjà venue, que les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité, car le Père demande de tels adorateurs. Verset 24, Dieu est esprit et il faut que ceux qui l'adorent l'adorent en esprit et en vérité. Donc voilà, bonjour frères et sœurs, bon sabbat à vous tous. J'aimerais vous proposer aujourd'hui ce message que j'ai intitulé et que j'ai fait également dans un différent format, animé du même esprit que lui. À savoir, animé du même esprit que Jésus. Et, par extension, ce qui est la même chose, animé du même esprit que Dieu. Car nous lisons ici que, comme Jésus disait, Dieu est esprit, et il faut que ceux qui l'adorent l'adorent en esprit et en vérité. Donc, avant de revenir sur ces paroles de Jésus à la femme samaritaine, j'aimerais introduire ce message en disant ceci, à savoir que nous qui vivons, frères et sœurs, en ces tout derniers jours, nous avons besoin d'apprendre non seulement la vérité et la véritable et pure doctrine, excusez-moi, mais nous avons besoin également de saisir et de comprendre l'esprit de celui qui nous donne la doctrine et qui nous donne la vérité. Et donc, c'est pour cela que les paroles de Jean chapitre 4, versets 21 et 24, nous élargissons la lecture, nous donnent l'introduction, je devrais dire, d'un concept important. Dans Jean chapitre 4, versets 21 à 24, nous lisons, donc Jésus, il s'adressait à la femme samaritaine, il avait ce fameux entretien sur lequel je ne reviens pas, où toutefois nous voyons que il lui parlait de l'eau, hein, de l'eau spirituelle, que si elle buvait, elle n'aurait plus jamais soif, et donc elle lui a dit, donne-moi toujours de cette eau, verset 15. Et ensuite, au verset 19, elle change de sujet et elle lui parle du sujet de l'adoration. Excusez-moi. Et donc au verset 20, je vais juste élargir avec le verset 20, où elle dit, nos pères, dit-elle, ont adoré sur cette montagne. Donc la montagne de Samarie, je crois que c'est Gerizim. Et vous, dit-elle en s'adressant à Jésus, vous dites que le lieu où il faut adorer est à Jérusalem, c'est-à-dire là où les Juifs adoraient. Là où la tribu de Juda et de Benjamin ont plus tard prospéré après que les 10 tribus se soient séparées, hein, le grand Israël des tribus du Nord, qui est plus tard devenu la Samarie confuse. Donc elle dit, mais vous, vous dites que le lieu où il faut adorer est à Jérusalem. Et là, c'est là que Jésus y répond ce qui a conduit à la méditation que nous avons eue dans notre lecture biblique, avec le verset 21. Jésus lui dit, femme, crois-moi, le temps vient que vous n'adorerez plus le Père, ni sur cette montagne, ni à Jérusalem. Vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Pour nous, nous adorons ce que nous connaissons, car le salut vient des Juifs. Donc, elle, disait-il, ainsi que son peuple, les Samaritains, ne savaient pas ce qu'ils adoraient. Hein, vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Leur culte était un culte confus. Mais il disait, nous, à savoir nous, se mettant dans la catégorie lui-même des Juifs, il disait, nous adorons ce que nous connaissons car le salut vient des Juifs. Mais, dit-il, il ajoute, l'heure vient et elle est déjà venue que les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité, car le Père demande de tels adorateurs. Dieu est esprit et il faut que ceux qui l'adorent l'adorent en esprit et en vérité. Et j'aimerais que nous puissions aujourd'hui, par la grâce de Dieu, explorer ce concept d'adorer Dieu en esprit et en vérité. Alors, pas tout à fait dans la même capacité et avec la même direction que je l'avais déjà fait par le passé et que cela a déjà été fait depuis, mais en nous concentrant sur le fait que, sur ces paroles de Jésus où il dit que Dieu est esprit. Et il faut que ceux qui l'adorent, l'adorent en esprit et en vérité. À savoir ici, si vous me suivez bien, non pas toutefois moi, mais la pensée qui est renfermée dans ces paroles inspirées de Jésus, nous voyons que Dieu est esprit. Ou, comme c'est marqué d'ailleurs dans la Bible en anglais, la King James, Dieu est un esprit. À savoir, il est un être intelligent. De même que nous sommes esprits, à savoir nous sommes chacun de nous un esprit vivant, intelligent, actif, tout comme nous sommes aussi donc des êtres intelligents. Donc Dieu est un être intelligent, tout comme nous sommes aussi des êtres intelligents. Dieu n'est pas un robot, et nous ne sommes pas non plus des robots. Et donc qu'est-ce que cela veut dire, adorer Dieu en esprit? Et en vérité, eh bien, si vous y réfléchissez attentivement, ça veut dire plusieurs choses, mais une des choses que cela veut dire, c'est que cela signifie être en harmonie avec la vérité et l'esprit même de Dieu. Vous voyez donc, il ne s'agit pas simplement de rendre un culte à Dieu et d'adorer Dieu conformément à la vérité qui vient de Dieu et qui est Dieu, mais c'est adorer Dieu, être en harmonie avec Dieu et rendre un culte à Dieu en harmonie avec son esprit, l'esprit qui est celui du Dieu qui nous a donné cette vérité. Et c'est pour ça que j'ai intitulé ce message Animé du même esprit que lui. C'est important afin de pouvoir faire partie de ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Parce que pour pouvoir qualifier, pour pouvoir être éligible, pour ainsi dire, à cette déclaration de Jean chapitre 4, verset 24 de Jésus sur quels seraient les vrais adorateurs que le Père non seulement chercherait mais trouverait, en ces derniers jours, il nous faut rentrer dans le cadre et dans le sens de ces paroles-là. Et ceci est tout particulièrement important, car tant la parole de Dieu et notre propre expérience nous enseignent et nous ont enseigné que l'homme est naturellement enclin à adorer Dieu et à servir Dieu conformément à son propre esprit, ou bien à sa propre compréhension de la vérité, ou bien, parfois et souvent, les deux. C'est-à-dire que c'est absolument indispensable pour nous, en ces derniers jours, non seulement de connaître la vérité de Dieu afin de lui rendre un culte selon elle, mais de comprendre et de saisir son esprit afin d'être nous-mêmes animés du même esprit que lui, afin que nous puissions et qu'il puisse être dit de nous que nous l'adorons en esprit et en vérité. Donc, je répète, adorer Dieu selon sa pure vérité, Même cela ne suffit pas si nous voulons faire partie du peuple duquel Jésus parlait lorsqu'il disait à la femme samaritaine que le Père cherche des vrais adorateurs qui l'adoreront en esprit et en vérité. Et donc, ceci nous conduit aux paroles de Jean chapitre 3. Alors, j'en avais parlé quelque peu déjà, et cela a déjà été mentionné à de nombreuses reprises depuis, mais j'aimerais y revenir pour repasser en revue ces choses que Jésus disait à Nicodème dans Jean chapitre 3, versets 3 à 10, et relever ces paroles dans le contexte de l'Esprit qui est Dieu et qui est celui de Dieu et selon lequel il nous faut être animés afin de pouvoir adorer correctement Dieu. Notez bien, Jean chapitre 3, verset 3. Nous lisons. Donc au début, Nicodème est venu à Jésus et il lui a dit, Maître, nous savons que tu es un docteur venu de la part de Dieu, etc. Il lui a adressé ses louanges. Et ensuite Jésus, il lui répondit, verset 3, en vérité, je te dis que si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Donc, si l'homme ne naît de nouveau, et n'est pas animé d'un nouvel esprit, eh bien, est-ce qu'il peut rendre un culte à Dieu? Il est dit de cet homme qu'il ne peut même pas voir le royaume de Dieu, encore moins adorer Dieu. Vous voyez? C'est important de pouvoir saisir ici, parce que la parole de Dieu, elle paramètre nous, notre compréhension afin que nous puissions rentrer dans la pensée de Dieu. Et au final, si nous suivons bien le parcours, arriver à être même animé du même esprit qui anime Dieu. C'est ça? Mais afin de pouvoir arriver à cette destination, il nous faut tout d'abord laisser l'esprit de Dieu et la parole de Dieu paramétrer notre vision, et parfois le champ est plus étroit ou parfois il est plus large. Si vous lisez au verset 24, ça nous poursuivons, Nicodème lui dit, répondit, comment un homme peut-il naître quand il est vieux? Peut-il rentrer dans le sein de sa mère et naître une seconde fois? Donc vous voyez, Nicodème, il est en train ici d'exprimer ce que n'importe quel homme est enclin à exprimer s'il fonctionne selon sa propre chair, à savoir son propre esprit. Donc Nicodème, il dit, mais là, il est en train de penser selon son esprit, pas selon l'esprit de Dieu, il pense selon son esprit, avec toutefois en grande partie la vérité de Dieu, mais Jésus il disait, le temps vient où les vrais adorateurs n'adoreront pas comme vous en esprit sans la vérité, ou comme nous, enfin du moins les Juifs, avec la vérité, mais sans l'esprit de la vérité, tellement qu'ils en arriveront même à crucifier celui qui est la vérité incarnée. Et donc, Jésus lui répondit, verset 5, en vérité, je te dis que si un homme ne naît d'eau, et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Ce qui est né de la chair est chair, et ce qui est né de l'esprit est esprit. Ne t'étonne point de ce que je t'ai dit, il faut que vous naissiez de nouveau. Le vent souffle où il veut, et tu en entends le bruit, mais tu ne sais ni d'où il vient, ni où il va. Il en est de même de tout homme qui est né de l'esprit. Nicodème lui dit, verset 9, comment ces choses peuvent-elles se faire? Hein? Vous voyez, donc c'est le clash des esprits. D'une part, l'esprit de l'homme qui est naturel, charnel, animal, et qui ne discerne pas les choses spirituelles, et d'autre part, l'esprit de Dieu qui est spirituel, céleste, élevé, noble, et qui est incompatible. Vous voyez, donc il dit, comment ces choses peuvent-elles se faire? Verset 10, Jésus lui répondit, tu es le docteur d'Israël et tu ne sais pas ces choses. Donc voilà, connaître la vérité, c'est en soi insuffisant, de telle sorte qu'il pourrait même être dit de nous que nous connaissons la vérité, mais que nous ne connaissons pas les choses que Dieu cherche à nous faire comprendre. malgré que nous connaissons la vérité, ce qui était le cas de Nicodème. Donc nous sommes ici en train de juste relever certains principes qui ressortent de la parole de Dieu afin de voir que bel et bien, c'est une possibilité que nous, en tant que croyants en la vérité, nous n'arrivions pas toutefois à saisir, si ce n'est une partie ou la totalité de l'esprit de celui qui est à l'origine de la vérité d'origine céleste, à savoir Dieu. Parce que Nicodème connaissait dans une grande mesure la vérité, mais il n'était pas familiarisé avec l'esprit de celui qui était l'auteur de la vérité. Et c'est ce que nous voulons arriver à comprendre, c'est nous familiariser avec pas simplement une partie, mais avec la totalité de l'esprit de Dieu qui est la vérité. Hein, Jésus disait, je suis le chemin, la vérité et la vie. Mais ça, c'est une déclaration, noir sur blanc. Mais encore nous faut-il saisir l'esprit de celui-là, de peur que nous ne mentions contre la vérité par notre comportement, parce que nous n'avons pas absorbé, réellement saisi, compris dans tous ses aspects son esprit, afin que nous puissions l'adorer en esprit et en vérité. Vous voyez? Et donc, Jésus parlait à Nicodème d'une nouvelle naissance, d'une nouvelle prise de conscience, du besoin d'être, je cite, né de l'esprit. Hein, parce que si vous lisez dans 1 Corinthiens chapitre 2, je crois, juste brièvement, hein, pour voir le langage qui est utilisé de manière complémentaire, excusez-moi, 1 Corinthiens chapitre 2, verset 12, où l'apôtre Paul disait au sujet de cet esprit, parce que si nous, ce qui est né d'esprit est esprit, nous avons lu. Hein, c'était au verset 6 de Jean chapitre 13, pardon, Jean chapitre 3, verset 6, il y avait marqué ce qui est né de la chair et ce qui est né de l'esprit est esprit. Donc si nous sommes nés de l'esprit, alors nous avons l'esprit de Dieu. Non pas simplement son esprit, mais sa mentalité. Oui, c'est ça qui est important. L'esprit est une personne, mais quand l'esprit vient en nous, nous ne ressemblons pas juste une personne. Nous sommes mis en contact et nous arrivons maintenant à comprendre la mentalité de Dieu. C'est ça que nous cherchons ici à saisir. Hein, Dieu disait à la femme samaritaine, Dieu est esprit, il faut que ceux qui l'adorent l'adorent en esprit, en vérité. Et pour adorer Dieu en esprit, il faut recevoir son esprit afin qu'il puisse nous communiquer qui il est dans sa façon d'être, plus que simplement qu'est-ce qui est vrai. Vous voyez? C'est ça que nous voulons saisir. Parce que ces deux choses sont complémentaires, mais l'homme charnel, il les dissocie et ensuite il va mentir contre la vérité. Pourquoi? Pas forcément parce qu'il est malhonnête, mais parce qu'il n'a pas fait le lien entre l'esprit de celui qui est la vérité et la vérité même, et la doctrine. C'est ça que nous voulons arriver à saisir. Parce que lorsque ces deux choses sont fusionnées dans notre expérience, que nous comprenons à la fois la pure vérité et l'esprit, la plénitude de l'esprit de celui qui est la vérité, alors nous devenons, conformément à cette déclaration de la parole de Dieu et de Jésus, des vrais adorateurs. C'est ça? Et donc, juste, je voulais attirer votre attention vers les paroles de 1 Corinthiens, chapitre 2, verset 12, où il était écrit, pour nous, nous n'avons pas reçu l'esprit du monde, mais l'esprit qui vient de Dieu, pour connaître les choses qui nous ont été données de Dieu. Qu'est-ce qui nous est donné de Dieu? La parole de Dieu, la vérité, les révélations divines, les prophéties. Sauf que, pour bien les comprendre, il nous faut expulser l'esprit du monde et remplir le vide par l'esprit qui vient de Dieu. Vous voyez? Afin que nous puissions connaître les choses qui nous ont été données de Dieu. Et nous les annonçons, non avec les discours qu'enseigne la sagesse humaine, mais avec ceux, les discours qu'enseigne le Saint-Esprit, hein, expliquant les choses spirituelles aux spirituels. Or, l'homme animal ne comprend point les choses de l'Esprit de Dieu, car elles lui semblent folie, et il ne les peut connaître parce que c'est spirituellement qu'on en juge. Hein, les choses spirituelles, les choses de Dieu, les profondeurs de Dieu, les choses qui ont trait à l'esprit de Dieu et la mentalité, le comportement de Dieu, ce sont ces choses dont on juge spirituellement et pour lesquelles nous avons besoin de l'esprit de Dieu. À la fois la personne et la mentalité. Oui? À la fois la personne et la mentalité. Et c'est la personne de l'esprit de Dieu qui nous confère qui nous transmet cette mentalité de Dieu. Hein? Jésus disait, lorsqu'il viendra, il ne parlera point de lui-même au sujet de ce consolateur, mais il prendra de ce qui est à moi et il vous l'annoncera. Et donc l'esprit seul est capable de faire cela, mais encore nous faut-il réaliser notre besoin d'un autre esprit que celui qui nous anime par nature. Vous voyez? Et donc nous poursuivons, c'était une parenthèse, quelque peu importante toutefois. Et donc, pourquoi est-ce que nous avons besoin d'être nés d'esprit? J'y ai déjà fait quelque peu allusion, mais nous le voyons à travers plutôt maintenant la parole de Dieu, à cause de ce qui est marqué dans Ésaïe chapitre 55. Ésaïe chapitre 55 et versets 8 et 9, où il est écrit ici. Pourquoi avons-nous besoin d'être nés de l'esprit? Pourquoi Nicodème avait-il besoin? Pourquoi avons-nous besoin? Car mes pensées ne sont pas vos pensées, et vos voix ne sont pas mes voix, dit l'Éternel. Car autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant mes voix sont élevées au-dessus de vos voix, et mes pensées au-dessus de vos pensées. Donc nos pensées ne sont pas conformes aux pensées de Dieu et ni nos voix conformes à ses voix. C'est pour cela que nous avons besoin de faire ce qui est marqué au verset 7, je l'ai raté, excusez-moi, que le méchant abandonne sa voix et l'homme injuste ses pensées et qu'il retourne à l'Éternel qui aura pitié de lui. Et à notre Dieu, car il pardonne abondamment. Donc Dieu nous promet de nous pardonner nos pensées iniques et méchantes et pécheresses, mais il dit cela parce que, en nous faisant comprendre que nos pensées ne sont pas ses pensées par nature, que afin d'avoir ses pensées, nous avons besoin de faire ce qui est écrit au verset 1 et 2, et 3 d'ailleurs. Ô vous tous qui êtes altérés, venez aux eaux. La parole est symbolisée par une eau, l'eau de vie. Ô vous tous, hein, celle dont Jésus y parlait à la femme samaritaine, si tu buvais de cette eau, tu n'aurais plus jamais soif, n'est-ce pas? Et il dit, il était la source de cette eau. Hein, Jésus est la parole de Dieu. Donc, excusez-moi, ô vous tous qui êtes altérés, venez aux eaux, et vous qui n'avez point d'argent, venez acheter et manger, venez acheter sans argent et sans aucun prix du vin et du lait. Et la moitié du verset 2, écoutez-moi et vous mangerez ce qui est bon. Hein? Qu'est-ce qu'il dit? Écoutez-moi et vous mangerez. Vous voyez le parallèle ici qui est ici tracé? C'est-à-dire que si vous m'écoutez, vous allez manger quelque chose. Donc qu'est-ce qu'il sait? Qu'est-ce que c'est la nourriture dont il parle? Ce sont ses paroles parce qu'il disait, les paroles que je vous dis, elles sont esprit, elles sont vie dans Jean chapitre 6 et verset 63, je crois. Donc Jésus, il disait, je suis le pain de vie, celui qui me mange et qui me boit aura la vie éternelle. Et ici, il est marqué que, il dit, écoutez-moi et vous mangerez ce qui est bon, vous jouirez à plaisir de ce qu'il y a de meilleur. Hein? Il dit, venez acheter et manger. Écoutez et vous mangerez. Vous voyez? Donc Dieu, il dit que les paroles que nous entendons de lui et que nous assimilons sont représentées comme une nourriture. Et c'est avec cette nourriture que nous sommes appelés à venir à Dieu et que nous sommes appelés à manger de lui. Prêtez l'oreille, venez à moi, écoutez et votre âme vivra. Et je traiterai avec vous une alliance éternelle selon les gratuités immuables données à David. Donc nous venons à Dieu et il nous nourrit de ce pain, de cette parole de vie et En même temps, il traite avec nous une alliance dans le sens qu'il ne vient pas juste. Il ne vient pas juste nous améliorer. Il propose de nous transformer en nous pardonnant nos péchés et en rénovant toute notre. En nous faisant passer par la mort et la résurrection de Jésus, je devrais dire, comme c'est marqué dans Romains chapitre 6. Et donc, par rapport au fait que, donc nous voyons ici que nos pensées ne sont pas les pensées de Dieu, je devrais dire ses pensées ne sont pas les nôtres, et ses voies sont également différentes de nos voies. Et nous voyons ceci et comment cela s'applique à notre message actuel dans les paroles de Luc chapitre 9. Nous faisons une petite lecture, étude biblique aujourd'hui. Afin de pouvoir saisir le sens des termes qui sont employés et comment la parole de Dieu elle-même nous renvoie à ces passages afin pas simplement d'obtenir une connaissance de la vérité biblique, mais afin d'arriver à saisir l'esprit de celui qui à la fois nous donne la vérité et qui est la vérité. Dans Luc chapitre 9, verset 52. Donc, certains d'entre vous se rappelleront probablement, je pense, que j'ai fait allusion déjà récemment à ce passage, et maintenant nous élargissons le contexte. Dans Luc chapitre 9, verset 52, nous lisons: Il, Jésus, envoya des gens devant lui qui, étant partis, entrèrent dans un bourg, c'est-à-dire un village, des Samaritains, pour lui préparer un logement. Mais ceux-ci ne le reçurent pas, parce qu'il, Jésus, se dirigeait vers Jérusalem. Et Jacques et Jean, ses disciples, voyant cela, lui dirent: Seigneur, veux-tu que nous disions que le feu descende du ciel et qu'il les consume comme fit Élie? Mais Jésus, se retournant, les censura et leur dit: Vous ne savez de quel esprit vous êtes animés. Qu'est-ce que c'est? Jésus leur dit: Vous ne savez de quel esprit vous êtes animés. Donc, il s'agissait ici des disciples du Seigneur Jésus-Christ, qui le suivait, qui le servait, qui faisait beaucoup de glorieuses choses en son nom, et pourtant Jésus leur dit: Vous ne savez de quel esprit vous êtes animés. Autrement dit, l'esprit de celui que eux désiraient servir était différent de celui qui les animait eux. Vous voyez? À savoir, eux, ils ne savaient pas. Là, nous allons brièvement. Ah pardon, excusez-moi, le verset 56, j'ai manqué cela. Car, verset 56, le Fils de l'homme n'est point venu faire périr les hommes, mais les sauver. Et ils s'en allèrent dans un autre bourg. Donc Jésus n'est pas venu faire périr les hommes, mais les sauver, à savoir l'esprit qui désire faire périr les hommes plutôt que les sauver, et l'esprit dont Jésus n'est pas animé. Et c'est-à-dire est un esprit différent du Dieu qui est esprit et qui cherche les vrais adorateurs. Vous voyez? Et donc, pour faire le pont ici, et pour nous conduire vers notre. Non, pas tout à fait notre conclusion encore. Pour faire le pont, nous voulons voir que, et penser au fait que eux, ils ne savaient pas. Jésus leur a dit: Vous ne savez de quel esprit vous êtes animés. Eux, ils ne savaient pas. Mais nous avons tous les enrichissements et les éclaircissements de la parole de Dieu et de l'esprit de prophétie. Et donc, nous voulons à la fois savoir quel est l'esprit qui nous anime, et également nous assurer que c'est bien l'esprit de Jésus. Donc on veut savoir quel esprit est celui qui nous anime et nous voulons réaliser, si ce n'est pas le bon esprit, nous voulons nous assurer d'être animés du bon esprit, à savoir de l'esprit de Jésus. Jésus disait, vous ne savez de quel esprit vous êtes animés. Votre esprit, ce n'est pas mon esprit. Vos pensées, ce ne sont pas mes pensées. Vos voix, ce ne sont pas mes voix. Oui. Et quelles sont les voies de Dieu? Il avait dit, notamment, le Fils de l'homme n'est point venu pour faire périr les hommes, mais pour les sauver. Mais l'esprit de Jésus, ce n'est pas uniquement cela. C'est une partie de cela, mais cela va plus loin que cela. Et c'est ce que j'aimerais que nous cherchions à déterminer. Et donc, pour cela, nous poursuivons dans les paroles de Matthieu chapitre 12. Matthieu chapitre 12, versets 9 à 21. Dans Matthieu chapitre 12, verset 9, nous lisons la totalité et ça va nous conduire vers ce qui nous intéresse tout particulièrement, à savoir les versets 18 à 21. Mais j'ai besoin de lire le contexte, sinon il faut que j'abrège la chose. Étant parti de là, verset 9, il vint dans leur synagogue et il y trouva un homme qui avait une main sèche. Et les personnes lui demandèrent pour avoir lieu de l'accuser, est-il permis de guérir dans les jours de sabbat? Il leur dit, qui sera celui d'entre vous qui, ayant une brebis, si elle tombe le jour du sabbat dans une fosse, ne la prenne et ne l'en retire? Or, combien un homme vaut-il mieux qu'une brebis? Il est donc permis de faire du bien dans les jours de sabbat. Alors il dit à cet homme, étends ta main, et il l'étendit, et elle devint saine comme l'autre. Là-dessus, les pharisiens étant sortis délibérèrent entre eux comment ils le feraient périr. Mais Jésus, verset 15, l'ayant connu, partit de là, et une grande multitude le suivit, et il les guérit tous. Et c'est là que c'est intéressant. Et il leur défendit fortement de le faire connaître, de sorte que fût accompli ce qui avait été dit par Ésaïe le prophète en ces termes, deux points. Voici mon serviteur que j'ai élu, mon bien-aimé en qui mon âme a pris plaisir. Je mettrai mon esprit sur lui et il annoncera la justice aux nations. Il ne contestera point et ne criera point. Et on n'entendra point sa voix dans les places. Il ne rompra pas le roseau froissé et il n'éteindra pas le lumignon qui fume encore, jusqu'à ce qu'il ait rendu la justice victorieuse et les nations espéreront en son nom. Donc, vous voyez ici que ce passage qui nous est cité est celui que l'on trouve dans, ou je devrais dire, est le passage d'Ésaïe chapitre 42. Si vous allez avec moi vers les paroles d'Ésaïe chapitre 42, parce que c'est important comment c'est écrit ici, et ça nous permet de partir de ce passage pour ensuite élargir. Dans Ésaïe 42, verset 2, nous lisons ces éléments importants qui nous permettent de saisir l'esprit de Jésus. Parce que ces choses qui étaient dites à son sujet étaient conformes à ce qu'il avait fait, à savoir en demandant, je l'ai perdu, excusez-moi, j'y reviens, dans Matthieu chapitre 12, verset 19 peut-être. Matthieu 12, verset 19. Voilà, j'y reviens. Matthieu 12, verset 16. Et il leur défendit fortement de le faire connaître. De sorte, verset 17, de sorte que fût accompli ce qui avait été dit par Ésaïe le prophète en ces termes, etc. Et donc nous revenons dans Ésaïe 42, verset 2. Qu'est-ce qui avait été dit? par le prophète et qui était en harmonie avec ce que Jésus a fait en défendant fortement à la multitude de le faire connaître, c'est ce que nous lisons dans Ésaïe 42, verset 2. Il ne criera point, il n'élèvera point sa voix et ne la fera point entendre dans les rues. Nous voulons nous concentrer tout d'abord sur ce verset 2. Comment est-ce que nous trouvons cela élargi dans la parole de Dieu et comment est-ce que nous voyons ce principe de l'esprit et du caractère de Jésus élaboré davantage? Pour cela, vous vous tournez vers les paroles de Matthieu chapitre 6. Matthieu chapitre 6, versets 1 à 6. Donc vous voyez ici, je ne suis qu'en train de nous faire parcourir la parole de Dieu afin de pouvoir saisir à travers la parole exclusivement, si ce n'est quelques citations de l'esprit de prophétie auxquelles je vais faire allusion, afin de discerner à travers la parole de Dieu principalement et un peu de l'esprit de prophétie, l'esprit de celui qui est la parole, de celui qui est la vérité, de celui qui nous transmet la vérité. Matthieu 6, versets 1 à 6. Tout d'abord, je lis, prenez garde de ne pas faire votre aumône devant les hommes. Et donc, nous avons lu au sujet de Jésus. Mais nous lisons que la raison pour laquelle Jésus il parlait avec autorité, c'est parce que ce qu'il prêchait, il était et il vivait. C'est ce que l'esprit de prophétie nous dit en substance à un certain endroit que je ne saurais ici vous retrouver, bien entendu. Donc je répète, à savoir que la raison pour laquelle Jésus il parlait avec une telle autorité, il parlait comme aucun homme n'avait parlé, c'est parce que jamais aucun homme n'avait vécu comme lui. Ben, je crois que c'est plus proche de comment c'est exprimé. La raison pour laquelle Jésus parlait comment il parlait, je crois que c'était les personnes qui étaient revenues après avoir sondé qui il était, qui avaient rendu ce témoignage, à savoir que nul homme n'a jamais parlé comme cet homme a parlé. Et l'esprit de prophétie nous dit que la raison pour laquelle nul homme n'a jamais parlé comme Jésus, c'est parce que nul homme n'a jamais vécu comme lui. Et donc, ce que nous avons lu dans Matthieu chapitre 12, dans ce verset-là, avant 17, dans ce verset 17, Matthieu chapitre 12, verset 17, eh bien, c'était la vie, c'est-à-dire la démonstration de ce qu'il avait dit. Et voilà ici l'élargissement de ce qu'il non seulement disait, mais ce qu'il était dans Matthieu chapitre 6, verset 1, qui nous permet, à travers son enseignement, de cerner son caractère et son esprit. Parce que ce qu'il disait, il était. Jésus, il ne se trouvait aucune fraude dans sa bouche, il n'était pas un hypocrite. Les hommes, des fois, et souvent dans ce monde, et c'est d'ailleurs leur penchant et leur inclinaison naturelle, ils disent des choses qu'ils ne font pas. Ils enseignent des choses qu'ils ne sont pas. Oui. Mais Jésus, ce qu'il disait, il faisait, ce qu'il enseignait, il était. Et donc, c'est ça qui donne de la puissance à ces enseignements, parce que ces enseignements, c'est l'incarnation de qui il était. Ou plutôt, je devrais me dire, il était l'incarnation même de ce qu'il enseignait. Et nous sommes encouragés par Dieu à être et à vivre ainsi. Dans Matthieu chapitre 6, verset 1, je lis, prenez garde, dit Jésus, de ne pas faire votre aumône devant les hommes afin d'en être vu, afin d'être vu des hommes. Autrement, vous n'aurez point de récompense de votre Père qui est aux cieux. Vous voyez? Parce que la parole de Dieu nous dit que nous devrions nous amasser des trésors dans le ciel, pas pour être vus des hommes, mais pour que lorsque nous verrons le seul Dieu qui a vu nos aumônes, alors nous puissions avoir une récompense devant Dieu. Mais les personnes qui font leur aumône devant les hommes, Dieu il dit, c'est pas dans le ciel que tu as amassé tes trésors, c'est dans la chair, dans le monde. Bien que peut-être nous avons donné l'argent de manière charitable ou même dans l'église, si nous avons fait cela pour être vus des hommes, Dieu il dit, pouf, ça vaut rien ton truc, ça vaut rien. Autrement, vous n'en aurez point de récompense de votre Père qui est aux cieux. Verset 4, verset 2, je poursuis. Quand donc tu feras l'aumône, ne fais pas sonner la trompette devant toi. Hein? Je suis en train de donner. Oui. Jésus, il disait, non, 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 absolument pas. Et c'est d'ailleurs là que nous saisissons comme un indice de l'esprit de Jésus. Et qui est d'ailleurs l'esprit de Dieu, parce que Jésus, il disait à Thomas, si vous ne m'avez-vous pas connu, si vous m'avez vu, vous avez vu le Père. Hein? Donc si nous voyons Jésus, si nous cernons l'esprit de Jésus, nous sommes en train de voir, de cerner, de comprendre l'esprit du Père. Quand donc tu feras l'aumône, ne fais pas sonner la trompette devant toi comme font les hypocrites dans les synagogues et dans les rues, afin qu'ils en soient honorés des hommes. Je vous dis en vérité qu'ils reçoivent leur récompense. Qu'est-ce que c'est? Je me suis souvent demandé, mais Seigneur, je ne comprends pas, quelle récompense ils ont? La gloire des hommes, c'est ça leur récompense. Et donc, si nous faisons les choses pour être vus, connus des hommes, Jésus nous dit, nous avons déjà notre récompense et elle n'est même pas au ciel. Imaginez un peu, même si vous l'avez mis dans la trésorerie de l'Église, Jésus dit, ça vaut plus rien. Oui, je vais l'utiliser, mais au ciel, il n'y a aucune récompense pour ça. Vous voyez? Verset 3. Mais quand tu fais l'aumône, que ta main gauche ne sache pas ce que fait ta droite. Vous voyez le langage ici, bien entendu, que ma main, elle ne sait rien. Mais c'est juste imagé pour dire, faut que ça soit tellement secret, mais que même ta main gauche, elle ne sait pas ce que ta droite a fait. C'est-à-dire qu'il n'y a aucune manière pour les autres de dire combien tu as donné, qu'est-ce que tu as fait. Les personnes, quand ils arriveront au ciel, Jésus, il dira à cette personne, voilà, bien, mon bon et fidèle serviteur, tu as investi une telle somme, voilà, tu donnes ça, entre guillemets. Hein. Et les gens, ils diront, quoi? Il a donné ça? Mais on n'a jamais vu. On n'a jamais vu, on n'a jamais su. C'est ça la récompense de Dieu. C'est quand ce que nous faisons pour Dieu, hein, pas juste de l'argent, quand nous faisons pour Dieu du temps, de notre effort, nous ne sommes pas en train de le faire pour parader, hein, ce que nous avons fait pour Dieu, qui nous sommes devant Dieu, etc. Non, non, rien de tout cela. Nous nous satisfaisons dans notre relation intime et personnelle avec Dieu du fait qu'il n'y a que Dieu qui sait. Il n'y a que Dieu qui sait. Et ça, pour le vrai chrétien, ça nourrit le même esprit. Ouais, c'est comme si vous êtes en train d'accumuler une coupe et qui déborde. Ça, c'est un secret que vous avez avec Dieu. Comme ça, c'est marqué au verset 4 d'ailleurs. Afin que ton aumône se fasse en secret et ton Père qui voit dans le secret te le rendra publiquement. Et verset 5, et quand tu prieras, ne fais pas comme les hypocrites, car ils aiment à prier en se tenant debout dans les synagogues et au coin des rues afin d'être vus des hommes. Je vous dis en vérité qu'ils reçoivent leur récompense. Mais toi, quand tu pries, entre dans ton cabinet et ayant fermé ta porte, prie ton Père qui est dans ce lieu secret, et ton Père qui voit dans le secret te le rendra publiquement. Et cela nous renvoie vers ces paroles de... voyons voir qu'est-ce que j'étais en train de dire dans Matthieu chapitre 12, verset 17, où Jésus disait, vous arrivez à faire le lien ici, Matthieu chapitre 12, verset 16, ou le verset 15, où nous disons que une grande multitude suivit Jésus et il les guérit tous. Hein, ça fait une grande multitude, donc beaucoup de personnes qui avaient été guéries. Et Jésus, qu'est-ce qu'il fit? Il leur défendit fortement de le faire connaître. Jésus était ici en substance en train de dire, je n'ai pas fait cela pour que les hommes ils sachent. J'ai fait cela pour sauver. Vous voyez la distinction ici? Parce que c'est ce que nous avions lu, n'est-ce pas? Hein? Le Fils de l'homme est venu non pas pour faire périr les hommes, mais pour les sauver. Vous voyez? Jésus est venu pour sauver les hommes. Il n'est pas venu pour obtenir la gloire des hommes, mais la gloire de Dieu. Qu'est-ce qu'il disait dans Jean chapitre 17? Glorifie-moi de la gloire que j'avais avec toi. Pas une gloire humaine de louange hypocrite, non, mais cette communion avec le Père, c'est la seule gloire que Jésus il a toujours cherchée et désirée. Nous avons vu, car ils aiment à prier en se tenant debout dans les synagogues et au coin des rues afin d'être vus des hommes. Mais nous disons, quand tu prieras, ne fais pas comme les hypocrites. Et c'est pour cela que nous avions lu dans Ésaïe chapitre 42, verset 2, il ne criera point, il n'élèvera point sa voix et ne la fera point entendre dans les rues. Vous voyez le langage ici qui est utilisé? Ils aiment à prier en se tenant debout dans les synagogues et au coin des rues afin d'être vus des hommes. Mais Jésus n'était pas comme cela. Il ne fera point entendre sa voix dans les rues parce que Jésus n'était pas un hypocrite. Et nous sommes appelés à suivre son exemple et à être animés du même esprit que lui. Vous lisez ici comment la parole de Dieu, elle crée ce chaînon merveilleux. Et cela nous renvoie d'ailleurs vers les paroles de Luc chapitre 18. Luc chapitre 18, je pense que j'arriverai à parcourir le tout. Dans Luc chapitre 18, verset 9. Verset 9 à 14, c'est cette fameuse parabole du pharisien et du péager. Donc ça la couvre plus ou moins le même terrain, mais je vais juste la parcourir brièvement pour faire ressortir ce qui est important et intéressant ici. Verset 9, il dit, Jésus dit aussi cette parabole au sujet des gens persuadés en eux-mêmes qu'ils étaient justes et qui méprisaient les autres. Pensez ici, frères et sœurs, pensez, nous sommes ici en train de saisir quel est l'esprit de l'hypocrite, de la personne qui pense qu'elle est juste, et quel est l'esprit de Dieu, et quel est l'esprit du pécheur. Vous dites, mais qu'est-ce que tu racontes? Ça n'a rien à voir, Dieu n'est pas un pécheur. Oui, mais Dieu, il est descendu jusqu'à la position et la misère du pécheur, et il a assumé le même esprit qu'a le pécheur repentant. Regardez ici, je vais qualifier ces paroles que je viens de dire dans Ésaïe après, mais lisons tout d'abord cette parabole. Jésus dit cette parabole au sujet des gens persuadés en eux-mêmes qu'ils étaient justes et qui méprisaient les autres. Deux hommes montèrent au temple pour prier, l'un était pharisien et l'autre péager, c'est-à-dire collecteur d'impôts, pour Rome qui puisait. Le pharisien, se tenant debout, priait ainsi en lui-même, ô Dieu, je te rends grâce de ce que je ne suis pas comme le reste des hommes, qui sont ravisseurs, injustes, adultères, ni aussi comme ce péager. Je jeûne deux fois la semaine, je donne la dîme de tout ce que je possède. On parlait des aumônes avant. C'est lié, hein. Je donne la dîme de tout ce que je possède. Verset 3, verset 13, pardon. Mais le péager, se tenant éloigné, n'osait pas même lever les yeux au ciel. Mais il se frappait la poitrine en disant, ô Dieu, sois apaisé envers moi qui suis pécheur. Je vous le dis, celui-ci redescendit justifié dans sa maison, préférablement à l'autre, car quiconque s'élève sera abaissé et quiconque s'abaisse sera élevé. Oui? Dites-moi, ça vous rappelle quelqu'un ce langage-là? Je vous ai dit que j'allais aller dans Ésaïe, je ne veux même pas aller dans Ésaïe. Tournez-vous avec moi vers les paroles de Philippiens chapitre 2. Quelqu'un peut se dire, mais qu'est-ce que tu racontes, mon frère? Jésus, il n'est pas comme le péager. Tu es sûr? Tu es sûr? Philippiens chapitre 2, nous lisons verset 5. Ayez en vous les mêmes sentiments que Jésus-Christ, lequel a fait quoi? Lequel s'est-il tenu debout, priant ainsi en disant, Seigneur, je te remercie que je ne suis pas comme tous ces hommes pécheurs, moi j'ai jamais péché, etc. Dieu, Jésus, il a-t-il fait cela? A-t-il fait ceci? A-t-il dit, moi je fais ceci, je jeûne deux fois par la semaine, etc., etc. Moi j'ai obéi à tous les commandements de Dieu, etc., etc. Moi je suis dans l'église de Dieu, etc. Jésus a-t-il fait ceci? Jésus a-t-il pensé ceci? Jésus a-t-il vécu ainsi? Était-ce là l'esprit de Jésus? Vous le lisez ici. Philippiens chapitre 2, verset 5. Ayez en vous les mêmes sentiments qui étaient en Jésus-Christ, lequel étant en forme de Dieu, n'a point regardé comme une proie à saisir d'être égal à Dieu, mais il s'est dépouillé lui-même, ayant pris la forme de serviteur, devenant semblable aux hommes, et revêtu de la figure d'homme, il s'est, quoi? Abaissé lui-même en se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. C'est pourquoi aussi, quoi? Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné un nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout ce qui est dans les cieux et sur la terre et sous la terre fléchisse le genou et que toute langue confesse que Jésus-Christ est le Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Est-ce que cela donne un sens élargi à ces paroles de la fin de la parabole du pharisien et du péager qui nous disent que quiconque s'élève sera abaissé et quiconque s'abaisse sera élevé. Jésus a pris la place du péager et non pas simplement sa place, mais il a nourri son esprit d'humilité. D'humilité, n'est-ce pas? Qu'est-ce que c'était? Le psaume 22, allez-y avec moi encore une fois. Le psaume 22 qui nous parle de Jésus, l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde, le psaume 22. Non pas simplement l'agneau, mais celui qui a cet esprit. Le psaume 22, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? T'éloignant de ma délivrance et des paroles de mon gémissement, mon Dieu, je crie le jour, mais tu ne réponds point et la nuit, et je n'ai point de repos. Nos pères se sont confiés en toi. Ils ont crié vers toi, ils ont été délivrés, mais moi je suis un ver et non un homme, l'opprobre des hommes et le méprisé du peuple. Est-ce que Jésus était, pour ainsi dire, en train de se frapper la tête? Oh, aie pitié de moi qui suis pécheur. C'est ça. Jésus n'avait pas l'esprit du pharisien. Jésus avait l'esprit du péager. Il s'est humilié, il s'est abaissé et nous lisons que Dieu en exemple l'a souverainement élevé. Vous voyez un peu? N'est-ce pas merveilleux? Et donc nous voyons que Jésus s'est abaissé parmi les hommes afin d'être élevé par Dieu. Jésus n'a pas cherché à être élevé par les hommes, à obtenir la gloire des hommes, la vue des hommes. Non. C'est ce que nous lisions dans Matthieu chapitre 12, verset 16. Il a défendu fortement. Il y a marqué. Il leur a défendu fortement de faire connaître aux personnes qu'il les avait guéris. Qu'est-ce que ça veut dire? Il venait de les guérir. Ils étaient sur le point d'aller faire résonner sa gloire, etc. Ses grandes œuvres. Jésus a dit, ne dites pas ce que je vous ai fait. Ne dites pas. Vous voyez? Réfléchissez, frères et sœurs. Qu'est-ce que ça veut dire? Si nous avons fait des bonnes œuvres, si nous avons la vérité, est-ce que nous allons dire, venez, 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 nous sommes la vérité, la vérité. La vérité, c'est ici, ici. Venez, 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 venez. Oui, c'est tout un changement de paradigme. Parce que Jésus lui-même, il a dit, ne dites pas. Ne dites pas. Imaginez un peu. Imaginez l'esprit complètement, totalement opposé, différent des pensées naturelles de l'homme. Mais c'est ici la manifestation à la fois de l'esprit et de l'amour de Dieu. Jésus ne cherchait pas à se faire voir ou à se faire remarquer des hommes, mais plutôt à leur révéler le bras de l'Éternel. Et c'est ça la distinction ici, parce qu'on se dit, oui, mais oui, il voulait pas se faire connaître, mais en même temps c'était lui le Sauveur, donc c'est quoi l'équilibre? L'équilibre, c'est que Jésus, il cherchait à attirer les hommes à lui, non pas simplement à obtenir leur approbation humaine, mais à leur faire voir en lui le bras de l'Éternel. Hein? Ésaïe 53. Allez-y avec moi dans Ésaïe 53. Et c'est là que vous arrivez à discerner comment est-ce que nous pouvons nous comporter lorsque nous sommes Nous nous sommes vus confier la charge de la vérité éternelle de Dieu, des trois anges, de l'évangile éternel, du message d'Apocalypse 18 et de verset 4. Comment nous pouvons nous voir confier cette responsabilité d'un message si solennel et à la fois être animés du même esprit qui animait Jésus? Vous lisez ici dans Ésaïe 53, qui a cru à notre, verset 1, qui a cru à notre message et à qui le bras de l'Éternel a-t-il été révélé? Jésus était le bras de l'Éternel. Un autre passage, il est dit que Dieu a mis à nu son bras et est venu sauver. Donc c'est un peu un symbole du symbolisme qui est utilisé pour montrer que Dieu, il se défait, il se met à nu afin de pouvoir sauver l'homme. Vous voyez? C'est ce genre d'image qui est communiquée. Et Jésus était ce bras-là. Dieu s'est exposé lui-même au danger afin de sauver l'humanité. Nous disons que Jésus a même mis en péril ses propres attributs divins afin de pouvoir sauver l'homme pécheur. Parce que il s'est exposé à la tentation. C'est d'ailleurs ce que nous voyons, non seulement à travers le désert de la tentation à la de Matthieu chapitre 4, après le baptême, mais tout le long de sa vie, Jésus a été exposé à la tentation. Dieu a mis en péril ses propres attributs divins afin de nous sauver, à savoir Dieu a mis à nu son bras et Jésus était le bras de l'Éternel. Et ce que Jésus cherchait à montrer et à révéler aux hommes, c'est le salut que Dieu cherchait à leur accorder à travers lui, à savoir à travers Emmanuel. Quoi? Dieu avec nous. Donc Dieu cherchait à attirer les hommes à Jésus cherchait à attirer les hommes à lui, non pas pour obtenir leur approbation, leurs honneurs, mais pour les sauver. Vous voyez la distinction ici? Parce que, bien entendu, les gens ils diront, oui, mais il voulait pas qu'il soit connu, mais en même temps, il voulait qu'il soit sauvé par lui. Donc, c'est quoi l'équilibre? C'est ça l'équilibre. Jésus cherchait pas les honneurs des hommes, cherchait pas à ce que les hommes le connaissent simplement comme on connaît selon la chair, mais il cherchait à ce qu'il discerne en lui, qui était revêtu d'humanité. Il a voilé sa divinité par l'humanité, rappelez-vous. Les hommes ne pouvaient pas discerner le divin si ce n'est dans le caractère de Jésus. La gloire de Jésus n'a paru que à de rares moments. Voyez? Et le deuxième point, ouais, je vais essayer de boucler avec ce deuxième point et brièvement le passer sur le troisième. Le deuxième point, c'est ce que nous trouvons dans Ésaïe 42. Donc nous revenons à ce passage clé, Ésaïe 42 et verset 3. Ésaïe 42, verset 3, il ne brille, il ne, toujours en parlant de Jésus, parce que nous avons vu que c'était appliqué à Jésus, il ne brisera pas le roseau cassé et n'éteindra pas le lumignon qui fume encore. Il manifestera la justice avec vérité. Qu'est-ce que c'est? Il ne brisera pas le roseau cassé. Il n'éteindra pas le lumignon qui fume encore. Cela vous renvoie vers les paroles de 1 Corinthiens chapitre 13. 1 Corinthiens chapitre 13. Au sujet de cet amour de Dieu et de ce caractère de Dieu, parce que nous lisons dans 1 Jean chapitre 4, je crois, que Dieu est amour. Et quel est l'amour que Dieu est et qui est Dieu? 1 Corinthiens chapitre 13, excusez-moi, j'allais trop loin. 1 Corinthiens 13, verset 4, nous disons que la charité, ou plutôt l'amour, est patient. Il est plein de bonté. Et comme c'est marqué dans la Bible en anglais, une traduction libre nous donnerait l'amour est longanime. Longanime. Vous pouvez chercher le mot longanimité. C'est une traduction plus correcte de ce verset qui, en substance, nous fait comprendre que l'amour de Dieu et Dieu par extension, et d'ailleurs en premier lieu, Dieu est longanime, dans le sens que Dieu fait preuve de patience. Il souffre longtemps, les hommes pécheurs. C'est ça. Et l'amour qui est patient, c'est lié à cet amour que nous devrions manifester dans le sein de l'Église, hein, parce que l'apôtre Paul, il parle de l'application de l'amour dans le sein de l'Église, prioritairement. Mais c'est également vrai, cette déclaration au sujet de l'amour, au sujet de Dieu. Et c'est comme cela que nous voyons par rapport à ces paroles d'Ésaïe 42, à savoir que Jésus ne briserait pas le roseau cassé et n'éteindrait pas le lumignon qui fume encore, en ce que, dans le sens où, si c'est quelque chose où il n'y a pratiquement plus d'espoir, Jésus ne va pas dire terminé, c'est bon, j'ai pas la patience. Vous voyez? C'est ça. Réfléchissez, frères et sœurs. Si nous n'avons pas la patience avec les âmes, parce que elles ne sont pas tout à fait, elles ne sont pas tout à fait rebelles, mais on se dit, bon, il n'y a pas trop d'espoir. Mais s'il y a un peu d'espoir, Jésus ne va pas faire stop. J'ai plus la patience. Dégage. C'est ça, c'est sérieux, frère, ça, parce que nous, naturellement, des fois, nous serons tentés de dire, bon, il n'est pas tout à fait rebelle, la personne, là, mais j'ai pas trop la patience, ça me dégoûte un peu, j'ai pas envie de travailler pour ça aller. Vous voyez? Mais Dieu nous a manifesté un trait de caractère qui nous aide à pratiquer la longanimité. La longanimité, c'est un choix plus qu'un sentiment. Souffrir longtemps les personnes qui ne nous conviennent pas ou qui nous font souffrir ou qui font souffrir Dieu ou les deux, eh bien, c'est une épreuve de patience et de longanimité. Et c'est un trait de caractère que nous n'avons pas besoin de former de nos propres forces, mais que nous voyons en Jésus. Et c'est écrit, c'est exprimé de manière assez forte dans le passage de Jésus-Christ à la page 282 et paragraphe 2. Au sujet de Jésus, parce que c'est ça que nous cherchons à faire. D'ailleurs, j'aimerais juste... Mais non. Oui, je vais juste lire la citation précédente, que j'aurais dû lire précédemment, d'ailleurs, il y a quelque temps, qui se trouve dans la Review and Herald du 14 août 1888, paragraphe 6, et qui essaie de vous faire, et qui vous montre que ce que je fais depuis quelques minutes maintenant, c'est ce que l'esprit de prophétie nous appelle à faire. Elle dit ceci: vous demandez comment parfaire un caractère chrétien? Regardez à la vie de Jésus. Il est votre modèle. Voyez quel genre d'esprit il a manifesté et efforcez-vous de le reproduire dans votre vie quotidienne et dans vos conversations. Empruntez les mêmes chemins que lui. Vous devez le suivre afin de savoir que son lever se prépare comme celui de l'aurore. Son chemin est un chemin merveilleux pour celui qui y marche. Qu'est-ce que nous devons faire pour parfaire un caractère chrétien? Regardez à la vie de Jésus, il est notre modèle. Qu'est-ce qu'on nous dit? Voyez quel genre d'esprit il a manifesté. Hein? Afin que nous puissions être des vrais adorateurs, qui saisissons non pas simplement la vérité, mais l'esprit de celui qui est la vérité. Voyez l'esprit. Quel genre d'esprit il a manifesté et efforcez-vous de le reproduire dans votre vie quotidienne et dans vos conversations. Et donc, en lien avec cela d'ailleurs, par rapport à ce caractère de ce Jésus qui ne brisera pas le roseau cassé, nous lisons dans Jésus-Christ à la page 282, paragraphe 2, tout de suite nous poursuivons, où il est écrit: pourtant, au moment où Judas se joignit aux disciples, la beauté du caractère de Christ ne le laissait pas insensible. Il ressentait l'influence de cette puissance divine qui attirait les âmes au Sauveur. Celui qui n'était pas venu briser le roseau froissé, ni éteindre le lumignon qui fume encore, ne voulait pas repousser cette âme tant qu'elle ressentait le moindre désir de lumière. Le Sauveur lisait dans le cœur de Judas. Il prévoyait dans quels abîmes d'iniquité il s'enfoncerait s'il n'était délivré par la grâce de Dieu. En s'attachant cet homme à lui-même, c'est-à-dire, Jésus le plaça là où il pourrait, jour après jour, être mis en contact quotidien avec son amour désintéressé. Judas pouvait devenir sujet du royaume de Dieu s'il consentait à ouvrir son cœur à Christ afin de permettre à la grâce divine d'en bannir le démon de l'égoïsme. Vous voyez donc, qu'est-ce que c'était? Qu'est-ce que cela veut dire que il ne brisera pas le roseau cassé ou froissé, n'éteindra pas le lumignon qui fume encore? Ça veut dire qu'il ne voulait, celui qui n'était pas venu briser le roseau froissé ni éteindre le lumignon qui fume encore ne voulait pas repousser cette âme, c'est-à-dire Judas, tant qu'elle ressentait le moindre désir de lumière. C'est-à-dire que tant que le lumignon il fume encore, c'est juste de la fumée, vous vous dites, mais c'est bon, allez, terminé. Ça, c'est la nature charnelle, frères et sœurs. Vous dites, c'est bon, ça fume déjà, c'est déjà la fin. Non, Jésus, son esprit, c'était de protéger le lumignon qui n'est plus qu'en train de fumer et d'essayer de raviver la flamme tant que possible. Tant qu'il y a des espoirs, Jésus ne va pas éteindre le lumignon. Hein. Jésus n'est pas comme cela. Dieu n'est pas comme cela. Ce n'est pas là l'esprit de Dieu. Mais au contraire, l'esprit de Dieu, c'est de faire preuve de patience, et plus que de la patience d'ailleurs, parce que sa patience, hein, ce mot, il est un peu, ça peut être assez limité, de faire preuve de longanimité, c'est une caractéristique qui n'est propre qu'à Dieu seul. Hein, des fois, en tant qu'être humain, on peut être quelque peu patient, bon, on se dit, ouais, je patiente. Et non, mais Dieu, il n'est pas juste patient, Dieu est longanime. Et Jésus a été longanime même avec Judas, au sujet duquel il savait ce qui allait se passer. Et donc même si nous savons, nous pouvons parfois discerner des personnes qui nous disent « Ah, il est louche cette personne-là, douteuse, j'y crois pas trop. » Eh bien, l'amour de Dieu, l'esprit de Dieu, l'esprit de Jésus, si nous le nourrissons, eh bien nous dirons « Je vais concentrer sur cette flamme, je vais me concentrer sur ce qu'il y a de bien dans cette personne. » C'est ça, mais ça demande complètement un renoncement, une prise, un port de notre croix. Et c'est cela, marcher avec Jésus. C'est cela, imiter son caractère, imiter son exemple et marcher dans ses traces. Voilà, je vais m'arrêter pour cela. Par la grâce de Dieu, je pense que je vais me concentrer sur le reste. Peut-être que je vous ferai une deuxième partie plus tard sur... un autre élément du caractère de Jésus, mais je pense que cela devrait suffire pour aujourd'hui, frères et sœurs. Je prie que nous puissions prendre à cœur tous ces principes que nous avons explorés dans la parole de Dieu aujourd'hui et nous encourager à la pensée de l'exemple que Jésus nous a donné comme le serviteur de Dieu, hein, comme celui qui ne chercherait pas sa propre gloire, qui ne se rendrait pas témoignage à lui-même, qui ne chercherait pas les honneurs des hommes, mais qui chercherait les honneurs de Dieu, puissions-nous nous aussi être animés du même esprit et puissions-nous imiter et nous encourager par l'esprit longanime de Dieu. À la fois, cet esprit qu'il manifeste envers nous qui sommes pécheurs et qui avons besoin de la miséricorde de Dieu. Mais également de cet esprit qu'il nous encourage en tant que économe et que dispensaire de la grâce de Dieu et qui nous encourage à révéler envers les autres et à cultiver les uns envers les autres. Et vous verrez que si nous nourrissons cet esprit-là, si nous décidons d'être animés par cet esprit de Jésus et de Dieu, que nous serons à même de surmonter de nombreux obstacles, de nombreuses difficultés, de nombreuses épreuves et de nombreuses angoisses, parce que nous serons encouragés à l'intérieur de nous par cette prise de conscience que nous nourrissons le bon esprit et que par cette raison-là, nous sommes en harmonie avec le ciel. C'est ma prière, frères et sœurs, que Dieu vous bénisse abondamment. Je vous souhaite une bonne fin de sabbat et en espérant vous voir très prochainement. Que Dieu vous bénisse. Amen.